Bienvenue au balado-diffusion de Église M. Votre opinion est importante pour nous, alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante. info@commercialeglisem.com.
Je vais vous mentionner aussi quelques annonces ce matin, avant qu'on puisse aller dans le message. Juste mentionner quelques annonces. Je vous ai résumé un petit peu le communiqué qu'on a émis cette semaine. Continuez à regarder notre page. Nous allons continuer à mettre les informations au fur et à mesure que ça change. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, les choses évoluent rapidement au niveau social et même mondial en réalité. Donc, c'est pour ça qu'on tente de vous informer le mieux possible. Restez connectés sur notre page Facebook. Si vous n'avez pas déjà liké la page et que vous êtes en train d'écouter, likez-la maintenant pour être sûr que vous avez les notifications, vous avez le suivi ou visitez-nous régulièrement pour cela. Vous mentionnez aussi faire réaliser ou juste peut-être que des fois on s'en rend pas compte, mais l'Église vit par les dons des gens. Et évidemment, qui dit pas de gens dit pas de dons. Donc, ce qui est difficile comme toutes les autres situations au travers les emplois des gens. Et ce que nous, on veut faire, c'est vous aider à pouvoir continuer à donner en ligne. C'était déjà quelque chose qui était en place dans le passé, qu'on avait déjà commencé à mettre en place et qui est effectif en réalité. Les gens donnent aussi souvent par Interac. Ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller voir sur notre site Internet, sur comment donner en ligne, il y a une section qui s'appelle « Donner » dans les onglets dans le haut. Vous avez juste à aller voir sur notre page web, section « Donner ». Vous avez toutes les informations sur les démarches à suivre pour pouvoir donner directement en ligne, c'est-à-dire par virement bancaire, par PayPal. Vous pouvez le faire de cette manière-là. Mais si c'est pas possible pour vous, vous n'êtes pas encore à l'aise avec cette méthode-là, il y a toujours la bonne vieille façon du chèque dans la poste que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez simplement faire votre chèque, inscrire votre information si vous avez un numéro de dîme ou un numéro de donateur qui est déjà attribué, juste inscrire votre numéro de donateur pour qu'il soit attribué à votre nom et de le maler ou de le poster à Église M, 445 rue Blanchard, Saint-Jérôme. Toutes les informations sont sur notre page web. Et vous pouvez aussi également, une autre façon, ce que vous pouvez faire, c'est de pouvoir, si c'est possible pour vous, vous pouvez passer, juste venir ici dans les bureaux durant la semaine du mardi au vendredi de 9h à 16h30. Les bureaux sont ouverts. Vous pouvez venir déposer vos enveloppes, que ce soit passer par la machine Interac qui est disponible aussi, ou par chèque ou par argent, de mettre dans votre enveloppe, de le déposer ici. Nous allons l'envoyer à la comptabilité. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Et moi, ce que je veux faire appel, c'est principalement aux gens qui appellent Église M, leur Église, de continuer à supporter. Vous êtes ces piliers-là qui font qu'on peut continuer à faire le ministère et à être cette lumière-là dans la ville, dans la région, dans la communauté. Donc, je vous encourage à continuer à pouvoir le faire et de trouver la façon qui vous convient le mieux à vous et qui correspond à ce que vous pouvez faire aussi au niveau physique. Si vous pouvez pas sortir, vous pouvez pas vous déplacer, on comprend très bien ça. Donc, il y a les virements en ligne, la poste, ces choses-là qui peuvent être faites. Donc, on vous encourage à pouvoir donner puis continuer ces piliers-là pour l'Église M dans votre vie, c'est là que vous appelez l'Église M, votre Église. Aussi, juste mentionner pour ce qui est de toutes les activités, les réunions, incluant les petits groupes de semaines, l'Église, ce n'est pas qu'un bâtiment. Et c'est souvent une chose qu'on mentionne et qu'on répète souvent. Mais juste sachez que pour le moment, les activités de semaine sont suspendues, de la même manière que les réunions de l'Église. Mais moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de pouvoir peut-être donner votre nom, dire « Hey, moi, quand ça va recommencer, je veux participer, je veux faire partie d'un petit groupe, je veux être là. » Et je sais qu'on a besoin des uns des autres. Alors, je vous encourage à juste écrire à cette adresse que vous voyez. Et on va y revenir à ces activités-là, ces petits groupes, dans les prochaines semaines, dès que la vie va reprendre son cours, dès que tous les événements qu'on est en train de vivre vont se replacer. Nous allons recommencer les mêmes activités pour l'Église. Donc, voilà pour quelques annonces. Je vous encourage de continuer à être avec nous au travers ces moments-là, comme nous le sommes avec vous. Si vous avez besoin, si vous sentez vous avez besoin de parler, quoi que ce soit, juste envoyez-nous un message. Vous pouvez le laisser soit par Messenger sur la page Facebook, soit par courriel, par téléphone, contactez-nous. On va prendre vos informations pour être là avec vous, écouter, parler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, laissez-nous le savoir comment on peut vous aider. d'une manière quelconque. L'équipe pastorale est là, l'équipe de leadership de l'Église est là. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, simplement nous faire savoir comment on peut vous aider dans la mesure où c'est possible pour nous de le faire, nous allons être là. Donc, je vous remercie pour tout ce temps-là que vous prenez. Merci d'être là en direct avec nous autres aujourd'hui. Nous sommes évidemment dans une série de messages qu'on a commencé la semaine dernière qui s'intitule « Les tueurs silencieux ». Tueurs silencieux, et on a commencé cette série-là et vous avez été plusieurs, sincèrement, à m'écrire et à me faire part de comment ce premier message-là, qui était en réalité sur les inquiétudes, et comment ce message-là avait été pertinent pour vous le matin même, le dimanche même. Et j'avais des personnes, après la réunion, qui m'en avaient parlé, mais j'avais eu des messages durant les jours suivants. Et personne n'avait aucune idée de ce qui devait se dérouler durant cette semaine-là. Mais plus la semaine a avancé, plus j'ai reçu d'informations précises ou vraiment directes où des gens m'ont dit « Hey, écoute, à quel point c'était de circonstances et pertinent. » Et comment vous m'avez dit à quel point est-ce que ces inquiétudes-là étaient par rapport à ce qu'on est en train de vivre et comment l'escalade de tout ça. Donc, on a vu dans cette semaine-là comment les inquiétudes, Jésus en avait déjà adressé le sujet. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Les situations difficiles, les situations de crise, ce ne sont pas des choses nouvelles auxquelles nous faisons face en tant que juste des gens humains sur Terre. Jésus en avait déjà adressé le sujet parce que la réalité, c'est qu'on est tous, on est frappé par les crises, on est frappé par les tempêtes, on est frappé par les obstacles, les difficultés. Et en étant pasteur depuis plusieurs années, ça m'a permis de voir comment les gens vivent des tempêtes phénoménales, ils traversent des vallées difficiles, des vallées sombres dans leur vie. Et souvent, ces gens-là, ils le vivent, puis c'est comme quelque chose de... ça recommence, ou il y a des saisons comme ça. Et les gens m'écrivent, passent à mon bureau ou m'appellent ou quoi que ce soit pour me parler d'une crise soudaine qui débarque dans leur vie. Et la nouvelle vient d'arriver. Il y a des situations où ça progresse. Mais souvent, même si elles progressent lentement, les choses nous frappent souvent soudainement dans nos émotions, dans notre réalisation. Tout à coup, on fait « qu'est-ce qui vient de m'arriver? » Même si on avait pensé ou remarqué ou vu venir certaines affaires, tout à coup... hop, ça me frappe. Et là, il y a une réalisation qui vient descendre dans notre cœur, dans nos émotions, puis on commence tout à coup à tout être ébranlé, chamboulé par ça. Je venais de terminer le message pour ce dimanche-ci, aujourd'hui, que je devais faire dans cette série-là. Je vous avais mentionné les thématiques ou les choses qu'on devait voir par rapport aux tueurs silencieux. Et je venais de terminer ce message-là quand plusieurs nouvelles au niveau de l'actualité ont complètement changé. Ça s'est déroulé d'une manière hallucinante, rapide, comme à quel point chacun d'entre nous, les choses évoluaient aux heures et on prenait conscience de ce qui était en train de prendre place. Et alors que tout cela se déroulait, j'étais en réflexion parce qu'on travaillait avec l'équipe de leadership, l'équipe pastorale, on regardait qu'est-ce qu'on faisait et juste dans 36 heures à peu près, on a changé nos plans plusieurs reprises parce qu'on s'adaptait au fur et à mesure à la situation qui était en train de prendre place. Et alors qu'on prenait une décision, on faisait un communiqué, on se préparait, oups, la situation changeait, oups, la situation changeait. Et alors que les choses continuaient à évoluer, dans le fond, tout ça, c'est comme si le Seigneur partageait ou imprégnait sur mon cœur de « faut adresser ce sujet-là dans cette série-là des tueurs silencieux ». Et un de ces tueurs silencieux-là, j'ai passé ces derniers jours, à peu près 2 jours, pratiquement 48 heures en réflexion, j'ai prié Dieu, puis j'ai eu mon cœur d'aller vers le livre des psaumes. Et je me suis mis à lire, parce que s'il y a un livre dans la Bible qui apporte énormément au niveau des crises, au niveau de ces situations-là, c'est le livre des psaumes. Et lorsque j'ai commencé à chercher, je me suis rappelé à quel point le livre des psaumes, c'est une espèce d'armoire à pharmacie spirituelle de médicaments où Dieu a prévu tout ce qu'on a besoin d'avance pour nous rassurer, pour amener certains conflits ou problématiques qu'on vit à l'intérieur de nous, que Dieu avait déjà apporté quelque chose pour cela. Et ça inclut l'expérience d'une crise majeure. Ça inclut ça. Et donc, j'ai donc ajouté ce tueur silencieux-là dans la série. Ce tueur-là aujourd'hui, et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Sans même y penser ». Sans même y penser, et je parle du sujet de la peur, la crainte, la peur. Et c'est quelque chose qui souvent, presque toujours, nous arrive sans même y penser. C'est quelque chose qui nous envahit, c'est quelque chose qui nous frappe. Et le psaume sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui est un excellent exemple de ce genre de psaume-là motivé par une tragédie et qui est composé en réponse à un événement tragique dans la vie du roi Josaphat. Et il y a une histoire qui se trouve là-dedans dans deux chroniques au 20e chapitre. Et il y a un jour, il y a ces espèces d'éclaireurs, là, de patrouilleurs du roi qui partent et qui, à un moment donné, à l'horizon, ils voient une espèce de des nuages de poussière. Et là, ils voient qu'il y a trois armées qui s'en viennent. Ils réalisent qu'il y a trois armées qui s'en viennent, trois armées puissantes qui marchent vers Juda. Les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Donc, toutes les Hittes, ça fait même partie parfois, et on pourrait dire que dans notre vie, il arrive un peu les mêmes affaires, où il y a les écœurantites aussi qui débarquent dans notre vie. Donc, je sais, moi, je vais rire toute seule aujourd'hui, probablement que vous riez dans votre salon, à la maison ou devant votre téléphone, mais aujourd'hui, je sais que la plupart du temps, je suis très interactif avec vous. Donc là, c'est vous qui devez interagir avec moi, mais en direct. Donc, il y a des gens qui sont là pour interagir avec vous. Mais moi, je pense à ça, à toutes ces trois armées-là qui débarquent pour venir piller la nation, pour venir attaquer Juda. Et Josaphat, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, il y a eu peur. Et ce qui est normal et naturel. La peur, c'est normal. Il n'y avait aucun moyen, lui, il n'y avait aucune manière d'espérer gagner cette bataille-là avec cette petite armée-là qui débarque. Juda, une petite armée de rien, mal équipée, et tout à coup, il arrive ces trois grosses armées-là, full équipées, qui débarquent. Et là, lui, il a peur. Et comme je vous disais, la peur, c'est normal, c'est naturel. Et je veux que vous compreniez quelque chose, c'est que dans notre vie, Dieu a placé la peur. La peur est une bonne chose. Je veux juste clarifier, parce que souvent, c'est comme, oh, mais la peur, c'est pas de Dieu. En fait, c'est pas vrai. Dieu a donné la peur. Mais il l'a donné pour une raison. Le vrai problème, et ça, c'est souvent ce qui arrive avec la plupart de nos émotions, c'est pas qu'ils sont mal, c'est qu'ils sont juste pas gérés. C'est qu'ils sont hors de contrôle, et à ce moment-là, deviennent une entrave à ce que Dieu veut faire. Et la peur, elle a un but. La peur a une raison, c'est de protéger l'être humain d'un danger. C'est l'objectif de dire, hop, je devrais m'arrêter, oups, je devrais prendre garde, faire attention, il y a une menace. Et la peur ou la crainte, elle est excellente dans ce rôle-là, dans celui d'être un avertisseur, comme une espèce de panneau sur l'autoroute. Le panneau est pas mauvais en soi, il t'avertit, si t'en tiens pas compte, ça devient un problème, mais si tu prends juste ça pour rouler, ça devient un autre problème. Et c'est exactement ce qui se passe avec la peur. La peur est un excellent avertisseur, mais un très mauvais maître ou un très mauvais dirigeant. Dans qu'est-ce qu'elle devient dangereuse parce qu'elle prend le contrôle. Donc, on pourrait dire normal, il a eu peur. Josaphat a eu peur quand ils sont arrivés. On a tous peur quand il arrive une crise imminente. On a pas la panique nécessairement, parce que la panique, c'est lorsque la peur a pris le dessus, lorsqu'elle est devenue celle qui contrôle. Mais la peur est l'élément qui fait réaliser qu'il y a quelque chose qui doit être ajusté. Quelque chose doit se passer. Il doit y avoir une prise de conscience. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme nous autres, il a eu peur, mais la chose qu'il a fait par la suite, c'est qu'il s'est mis à prier. Et il a versé ou déversé son cœur vers Dieu, et en réponse à ça, Dieu a envoyé un message par un prophète, et il a dit ceci, le prophète, dans 2 Chroniques, le chapitre 2, le verset 15. Voici ce qu'il a envoyé comme message. Il a dit, « Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. » Et Dieu a envoyé ce message-là à Josaphat en disant, je comprends, mais n'aie pas peur. Pourquoi dans la Bible, il y a constamment, ne craignez pas, n'ayez pas peur? C'est parce que Dieu sait que la peur est en nous. Elle est là. Il nous a créés avec. Mais c'est lorsqu'elle devient hors contrôle qu'on devient tellement effrayé qu'on perd la notion que Dieu est celui qui agit et que Dieu est en contrôle de toutes choses. Josaphat a entendu ça, et là, il a conduit, savez-vous ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de faire une réunion, un culte. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. Il a décidé de faire un culte, et le lendemain, ils sont allés tout de suite par la suite à la rencontre de l'ennemi. Ils sont partis, et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pas mis l'armée en avant, ils ont mis le band de louanges en avant. Ils ont mis la chorale en avant. Ils ont mis les chantres en avant. Ils ont mis les gens qui amenaient la louange en avant de tout ça. Et quand ils ont passé la colline pour voir, pour se rendre au camp de l'ennemi, ils sont comme arrivés, puis en début, c'était les chants qui étaient là. L'armée était derrière. Imaginez ça, c'est assez particulier comme idée. L'ennemi est là-bas, puis on va mettre le ban en avant. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je pense qu'on va mettre le ban en avant. L'ennemi arrive, on va mettre notre ban en avant, puis on va mettre les soldats en arrière. Et ils sont partis. Quand ils ont passé la côte pour voir le camp de l'ennemi, tout ce qu'ils ont vu, ce sont des soldats morts. Il semblait comme s'il y avait eu une espèce de grosse bataille immense qui avait déjà eu lieu. Ça s'était déjà passé. Et Judas arrive, puis il fait comme, ben, ils sont déjà tous morts. Et dans la nuit, Dieu avait tellement amené de confusion entre les soldats qu'ils se sont tous attaqués les uns les autres. Ils se sont entretués eux-mêmes. Et aucun d'eux autres est resté en vie. Et ça, cette histoire-là a inspiré le chef des chants ou le directeur de worship, le directeur de louange, à écrire une chanson, à écrire un psaume en réalité. Et c'est le psaume qu'on va regarder aujourd'hui, qu'on va lire ensemble, qui se trouve être le psaume 46. Je vais faire la lecture et par la suite, on va le regarder ensemble. Le psaume 46, de 1 à 11, mais on va lire de 1 à 3 pour commencer, qui dit « Du répertoire du chef de chorale et du recueil de la confrérie de Corée, accompagnement à l'aigu, c'est un instrument, chant, Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. » C'est pourquoi nous avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Et là, je l'ai souligné, il y a un mot pause. Regardez dans tout le texte. J'ai mis quelques mots pour faire juste réaliser quelque chose. Dieu est un abri sûr ou un refuge, qu'on pourrait dire. Un secours, c'est-à-dire celui qui va être là dans la détresse, quand je suis dans la détresse, quand je ne sais plus quoi faire. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Et à la fin, il y a le mot pause. Et vous allez voir qu'à chacune des sections qu'on va lire, il y a le mot pause. Et je veux juste vous faire réaliser quelque chose. Le mot pause dans l'araméen ou l'hébreu, c'est le mot shela. Et shela, c'est qui veut dire s'arrêter et considérer. C'est pas une pause juste au niveau musical. C'est comme une espèce de, on va faire. Tu sais, quand on fait de la musique dans les églises, souvent on fait les chants, puis il y a comme des moments où on arrête, la musique continue, mais il y a comme un arrêt. Comme si on veut louer Dieu, on veut faire prendre conscience de ce qui se passe. Réalise ce qu'on est en train de chanter ou ce qui est en train d'être dit. Prends conscience de ça. Et c'est pour ça que le mot pause amène cette notion-là de réfléchir à ça, de s'arrêter et de réaliser. On va continuer au verset 4 qui dit ceci. Le verset 4, « Un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sacrée des demeures du Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. » Encore une fois, pause. Il y a cette notion-là, et même on pourrait prendre ce texte-là, puis juste s'arrêter, puis de voir à quel point la situation dans laquelle on est en ce moment, c'est-à-dire cette crise mondiale-là, cette pandémie-là, n'emmène pas simplement des inquiétudes au niveau santé, mais c'est économique, c'est planétaire. Donc, même si les empires s'ébranlent, les nations grondent, Dieu est avec nous. Peu importe ce qui se passe, Dieu est là. Et encore une fois, cette notion de pause, de s'arrêter, réalise le Dieu de Jacob et notre forteresse. Versets 8 et 9 dit ceci. Venez voir ce que le Seigneur a fait, les actes stupéfiants qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre. Il brise les lances. Il met le feu aux boucliers. Et encore là, je veux ramener cette notion-là de venez voir. J'ai mentionné dans le premier message, quand Jésus dit, observer les oiseaux, regarder les fleurs des champs. Jésus ramène toujours cette notion-là à chaque fois qu'il voit les gens s'inquiéter ou partir ailleurs, il les ramène à dire regarde, vois ce que Dieu fait. En fait, ce que le texte en dit, c'est observer ce que Dieu fait plus que ce qui est en train d'arriver. Parce que souvent nos yeux sont tellement partis dans cette mentalité-là, quand on a peur, quand on a crainte, on part dans cette spirale-là où tout ce qu'on voit, c'est... Et là, je le sais parce que je le vois passer, moi aussi. On a nos réseaux sociaux, on a nos téléphones, on est dessus, puis on fait comme, « Ah, oh, Maria, tu veux le vidéo? Tu veux les malades? Regarde au centre d'achat, regarde les paniers d'épicerie, regarde le papier de toilette, ça n'a pas de bon sens. » C'est la folie. Mais la réalité, c'est qu'on regarde ça, mais on oublie de regarder, de voir ce que Dieu fait. On perd de vue cette notion-là. Et quand on se met à perdre de vue ça, on réalise plus que c'est lui qui nous protège et c'est lui qui est notre forteresse. Et regardez comment il va finir le texte de Psaume 46, le verset 10 et 11. Verset fabuleux ou très connu. « Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. » Il répète encore une fois la même affaire. « Le Dieu de Jacob est notre forteresse. » Pause. On dirait un refrain. On dirait un refrain qui ramène la même affaire encore. « Le Dieu de Jacob est notre forteresse. » Peut-être qu'il l'a pas chanté de même. C'est moi qui l'interprète comme ça. Je vous verrai dans votre maison en ce moment. Donc, le verset 10 et 11, surtout le verset 10, il est souvent cité dans la version Louis II classique. Ça dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Combien de... Oui. Mais en réalité, c'est dans ce contexte-là. C'est « venez voir ce que Dieu fait. » Et il va dire « Arrêtez. » Dieu dit « Arrêtez-vous, là. » Et considérez qui je suis. Reconnaissez que je suis Dieu. Et dans les temps de crise, ce point-là est clair. C'est Dieu qui dit « Arrêtez-vous. » Quand on est dans ces temps de crise-là, c'est peut-être ce qu'on a besoin d'entendre. Tu sais, moi, je sais, peut-être pas vous autres, mais vous avez peut-être déjà entendu souvent ça, cette phrase-là de ton père ou de ta mère qui dit « Arrête! » Arrête! Arrêtez! Arrêtez! On te le dit souvent dans la vie, ça. Arrête! Et le mot arrêter, dans le texte, c'est le mot rapha, qui veut dire laisser tomber, qui veut dire relâcher, relaxer, se calmer, s'apaiser. C'est dans ce sens, c'est pas simplement dans le sens ne fais plus ça, mais plutôt calme-toi! Calme-toi, là! Wow! Tu sais, là, l'espèce de t-shirt là qui est sorti là keep cool stay calm là, tu sais, un genre de, en fait c'est à peu près ça, c'est à peu près le même genre de ok, arrêtez. Je pense que cette phrase là dans ce sens là devrait probablement être mise en boucle dans les haut-parleurs des centres d'achat ou des magasins. Calmez-vous, relaxez, stress, arrêtez de stresser, détendez-vous là. Et c'est l'idée que ce que Dieu essaie d'apporter quand vous faites face à une situation terrifiante, c'est comme s'il dit « dépose tout, là. Pose ton épée, ton bouclier avec lequel tu essaies de faire ce combat-là. Là. » Et c'est comme s'il dit « écarte-toi puis reconnais que je suis le seul et unique Dieu qui apporte la victoire. » Et c'est ce que Dieu va dire à Josaphat quand l'armée des hits, et nous dans notre vie c'est les écœurants hits, c'est donc quand ça débarque et quand ça arrivait, c'est un peu cette phrase-là qu'il a dit à Josaphat. En résumé, relax, mets l'armée à la fin puis les louanges en premier, parce que la bataille est pas à toi, est à moi. Et c'est comme si Dieu nous disait dans notre vie, je le sais que t'as peur, mais place en avant la louange. Loue-moi, reconnais qui je suis. Laisse-moi agir dans cette bataille-là. Laisse-moi être celui qui va apporter la victoire. Je ne sais pas pour vous autres, mais quand je suis confronté à une crise, être calme et relax, c'est pas ma première réponse. C'est pas ma première façon de me comporter. Et souvent, ma première réaction est plus de faire l'opposé. Me défendre, contre-attaquer, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de trouver un plan pour faire quelque chose. Et je sais à quel point ce que je vous dis là, vous le comprenez en ce moment. Pensez à quel point vous vous sentez vulnérable dans une situation de crise, dans une tempête, dans ces moments-là où on passe une vallée. On devient tellement en perte de contrôle et ça nous fait perdre tous nos moyens. on n'est plus capable de raisonner. Et dans ce psaume-là, on trouve trois choses qu'on peut savoir sur notre Dieu, qui nous aideront à arrêter malgré le résultat de toute bataille qu'on doit affronter. Et souvent, on oublie cette notion-là que nous sommes là, mais la bataille appartient à Dieu. Et le combat, c'est le sien. Et souvent, on veut le faire de nos propres forces, de nos propres capacités. On se dit, ah, j'ai mes ressources, je vais utiliser mes affaires, je vais appeler tout le monde, je vais mettre tout le monde au courant, je vais prendre de l'eau. On voit trois choses dans ce texte-là qui sont flagrants, mais qui je veux m'arrêter puis refaire exactement la même affaire que c'est marqué dans le texte pause. On va s'arrêter à quelques endroits, juste prendre une pause. Et la première chose qu'on voit dans ce texte-là, le premier point, c'est que Dieu est notre refuge. Et ça, c'est souvent, nous, notre pensée de refuge est conceptualisé selon notre situation ou ce qu'on est en train de vivre. Mais les gens de l'Ancien Testament ont un concept un peu différent de ce que c'est refuge. Parce que pour eux, à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait cette tradition, mais c'était commun, qu'on appelait des villes de refuge. Là où des gens allaient pour se cacher, que ce soit de leurs créanciers ou des gens qui voulaient en leur vie pour toutes sortes de raisons, que ce soit des situations de santé, peu importe, des gens qui pouvaient, une ville où ce qu'on pouvait se réfugier, il y avait comme un no man's land. C'était comme personne peut t'atteindre quand t'es dans cette ville-là. Et c'était une ville refuge. Et cette notion-là de refuge, c'est là où je cours quand je suis dans la détresse. Là où je me cache quand je suis en panique, quand je suis en crainte, quand j'ai peur pour ma vie. Et cette notion-là, c'est exactement ça. Ça nous donne une image du cœur de Dieu qui est lié à sa nature et à son caractère. Parce que ce que Dieu cherche à faire, à fournir, c'est cette sécurité-là, ce refuge-là pour les gens comme vous et moi. Et surtout dans ces temps qu'on ressent ces crises ou cette crise qu'on est en train de vivre. Dieu est notre refuge. Dieu le sait que lorsque les moments difficiles arrivent, ce qu'on a besoin le plus, c'est un endroit où se cacher. C'est un endroit où on veut fuir, un endroit où on veut être en sécurité. Quelque part où on peut sentir cette sécurité-là, où on peut en quelque part reprendre notre souffle. Où on peut se dire, OK, là, ça n'a pas de bon sens, il faut que je m'arrête, là, c'est fou, là. C'est la folie, et ça va avec cette notion-là de calmez-vous, arrêtez, soyez relax. Dans Psaume, au 91e chapitre, le verset 4, ça dit ceci dans la version Sommeur. Ça dit, « Il t'abrite de son aile, et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. » Si vous vous sentez opprimé ou fatigué ou effrayé par ce que vous vivez en ce moment, peut-être, des fois, c'est la crise qu'on vit par rapport au virus, mais des fois, ça peut être le deuil. Ça peut être l'anxiété ou le fait qu'on est seul ou qu'on a le cœur brisé. Regardez à ces promesses-là. Dieu, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier. Psaume au 9e chapitre, le verset 9, encore une fois, ça dit « Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge dans les temps de détresse. » Et y a-t-il un moment plus approprié que ce qu'on est en train de vivre? Dieu est un refuge dans les temps de détresse. Tu cherches en quoi mettre ta confiance. Dieu dit, place ta confiance en moi. Je suis un refuge. Moi, je vais te protéger. Et je sais que ça va parfois à l'encontre de notre raisonnement. C'est parce qu'à ce moment-là, on ne raisonne plus. On est en train de ressentir. On est en train de vivre une émotion et parfois elle dépasse le cadre qu'elle devrait prendre. Et je ne minimise pas le défi que c'est pour plusieurs personnes de vivre le stress, la crainte, l'anxiété, la peur. Je ne minimise pas ça, au contraire. Mais c'est que la réponse se trouve pas dans plus de stress, plus de peur, plus de crainte. Elle se retrouve dans un refuge, dans un temps de détresse. Et c'est ce que Dieu dit, viens vers moi. Moi, je vais être ce refuge-là. Psaume 62, verset 8 dit, vous qui êtes là, vous autres là, qui êtes là, fiez-vous toujours à lui, confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. Confiez-lui ce qui vous préoccupe. Y a-t-il des choses qui préoccupent? Mais il y a des choses qui nous préoccupent en ce moment. énormément, que ça soit la santé, que ça soit les enfants avec pas d'école en ce moment ou les garderies, que ça soit économiquement le travail, je vais-tu travailler, je vais pas travailler, est-ce qu'il va avoir de l'argent, il va pas avoir d'argent, comment je vais payer ça? Je sais qu'il y a toute cette panique-là ou cette crainte-là qui est là. Et il dit, confiez-moi ce qui vous préoccupe. Ça te dérange, viens vers moi. Écoutons, rappelez-vous que lorsque nous faisons face aux crises dans la vie, on peut s'abriter en lui parce qu'il est notre refuge. Et la réalité, c'est qu'on doit construire notre vie dans ces moments réguliers ou quotidiens avec lui, de rester en lui, dans ce refuge réconfortant, dans la présence de Dieu. Vous vivez des temps de crise, et que ce soit la crise mondiale en ce moment, mais ça peut être une crise personnelle que vous êtes en train de vivre. Ça vient juste accentuer le problème. Mais une des choses peut-être que tu peux faire, c'est mets de la louange, chante, loue Dieu, mets des chants de louange, laisse sa présence t'envahir, laisse-le venir prendre tes préoccupations. Dieu est pour nous un refuge. Deuxième chose qu'on peut voir dans ce texte-là, c'est que Dieu est notre force. Et ça, c'est une vérité extraordinaire qu'on peut s'approprier puis revendiquer quand on fait face aux crises dans notre vie. On peut s'abriter en lui, oui, parce qu'il est notre refuge. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que dans les moments de crise, ça draine notre énergie. Ça vient prendre nous beaucoup de toute la force qu'on a. Et les épreuves nous drainent et nous donnent l'impression que on n'est plus capable de continuer, qu'on n'y arrive plus, on est fatigué, on est brûlé. Puis dans sa parole, dans la Bible, Dieu promet de nous donner la force qu'on a besoin pour traverser les temps difficiles. Dieu a toujours dit, je vais être là. Et nous, on voudrait qu'il envoie cette espèce de bagage-là de force avant qu'on fasse face à la tempête ou à la crise. On voudrait l'avoir à portée de main pour pouvoir l'utiliser comme bon nous semble, comme si on avait de l'extra, là, comme j'en ai tout le temps avec moi, là. Un petit peu comme si quelqu'un disait, je vais mettre de l'essence dans ton auto, à chaque fois que tu as besoin à quelque part, je te donnerai la quantité que tu as besoin. Nous, on voudrait que le réservoir soit toujours plein. Nous, on voudrait toujours que ce réservoir-là soit plein à notre disposition parce que ça viendrait calmer notre crainte, notre peur. Le psaume 27, le verset 1 dit, « Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. » Et Paul va dire dans Philippiens au 4e chapitre, le verset 13, « Je peux faire face à toutes les crises de coronavirus grâce au Christ qui m'en donne la force. » Je peux faire face à toutes les difficultés, à tous les obstacles, à toutes les crises, à toutes les pandémies, à toutes les situations auxquelles je fais face parce que il m'en donne la force. Parce qu'il va me donner ce que j'ai besoin. Quand une épreuve arrive, on essaye... Combien de fois on essaye de porter nous-mêmes le fardeau? On essaye de prendre nous-mêmes les éléments puis de faire notre espèce de chemin de croix comme « Oh, faut que ça soit dur! » Mais quand on doit tenir compte de ce qui est dit dans le psaume, on oublie qu'on doit compter sur la puissance de Dieu. En fait, c'est pas notre force. Parce que si on le pouvait, à quoi bon avoir Dieu dans notre vie? Quand quelqu'un me dit « Ah oui, mais c'est une béquille pour toi », mais-en, parce que si tu verrais qu'est-ce que j'ai de l'air tout seul, ça va nulle part, ma vie. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Absolument que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Parce qu'il m'en donne la force. Il me donne la sagesse. Il me donne la maîtrise de soi. Il me donne la joie. Il me donne la paix. Il me donne l'amour. Il me donne toute cette tempérance-là dans ma vie. C'est lui qui me la donne. Parce qu'en moi, c'est pas là. Je vais céder à mes émotions. Le psaume 46 nous dit qu'on peut se calmer même au milieu des épreuves de la vie. On peut cesser de stresser. Je sais que ça, comme on se dit, mais voyons donc, on peut pas cesser de stresser. Et là, je suis pas en train de parler d'un bon stress qui nous motive ou qui nous fait avancer ou qui pousse à faire certaines actions, mais plutôt ce stress qui ronge et qui nous paralyse. Dieu est pas seulement notre refuge, mais aussi notre force. Troisième chose qu'on voit dans le texte de psaume 46, c'est Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Même au milieu de la crise, il est avec nous. Il est partout. Il est partout. En fait, il est partout, puis souvent, on a cette notion-là, c'est comme une espèce d'hyperbole quand les gens disent, tu sais, on parle de sport qui malheureusement est arrêté en ce moment. Si on parle de sport, tu sais, quand on dit un joueur, il est partout sur le terrain ou il est partout sur la glace, il est... En fait, c'est un hyperbole, c'est une symbolique. Parce que la réalité, c'est que si, mettons, je suis au match de hockey, puis que le joueur dit « Ah, il est partout sur la patinoire, partout sur la glace. » Il est partout. Si je me lève puis je m'en vais aux concessions pour aller me chercher un hot dog, c'est pas lui qui va me servir le hot dog. Il est pas partout. C'est une façon de voir. Sauf que quand on parle de Dieu, c'est qu'il est partout. Lui, il est physiquement partout. Il est toujours là, toujours présent. Dieu répond à notre besoin inné de ne pas être seul parce qu'il est toujours avec nous. Dieu nous a jamais promis d'éliminer la souffrance dans nos vies. On aimerait ça. Il nous a jamais promis ça. Mais il nous a toujours promis sa présence dans nos souffrances. Peut-être que tu te poses la question, mais pourquoi les souffrances? Pourquoi y arrive ça? L'automne dernier, j'ai fait une série qui s'appelle « Le mal, la souffrance et Dieu », dans laquelle j'ai adressé ces sujets-là. Le sujet du mal, l'injustice, les souffrances, et comment Dieu, le rôle, qu'est-ce que Dieu vient faire dans cette histoire-là, si Dieu est bon. Je vous encourage, peut-être que vous avez fait du temps cette semaine, à aller réécouter cette série-là, dans laquelle j'ai adressé ces sujets-là. Mais aujourd'hui, Dieu répond, et c'est là-dessus que je veux m'arrêter, c'est que Dieu est avec nous. C'est possible que Dieu soit avec nous dans le milieu de nos souffrances parce que Dieu est omniprésent. Il n'y a aucun endroit où il n'est pas. Hébreux au 13e chapitre, le verset 5, dit, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Je vais vous dire quelque chose. Dans le texte grec, aujourd'hui, c'est pas mon objectif de faire un cours de grec. Mais je voulais vous mentionner quelque chose de très particulier dans ce texte quand on le lit. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il y a dans ce texte-là en grec, dans juste ce que je l'ai souligné en jaune, il y a 5 négations en grec. 5 négatifs dans cette phrase-là. Et littéralement, j'ai tenté de le traduire littéralement sans faire sens en français. Et vous allez comprendre. Ça dirait, je ne te délaisserai pas non plus, je ne t'abandonnerai pas non plus. Il y a 5 négations dans ce texte-là. Je ne te délaisserai pas non plus, je ne t'abandonne, je ne vais pas t'abandonner non plus. Il y a comme cette emphase-là qui est mise de « non, je partirai pas, puis je le répète, puis je vais te le redire encore. » Puis il y a comme ce martelage-là. Dieu ne nous laisse pas quand la crise arrive. Aucune crise n'est trop grosse pour lui. C'est comme si il venait de perdre, comme je dis souvent, tout le monde trouve ça drôle quand je dis ça, mais c'est comme si Dieu était assis sur le trône dans son royaume, dans le ciel, et comme si tout à coup, là, il était sur le téléphone, puis il avait échappé le téléphone, puis mon Dieu, la crise, j'ai pesé sur le mauvais bouton. La crise vient de débarquer. Dieu n'est pas surpris. Il n'y a pas une crise qui est trop grosse pour lui. Dans son livre « Reaching for the Invisible God », Philip Yancey dit, « En fin de compte, lorsque la crise survient, nous avons deux choix. Craindre la crise ou craindre Dieu. Croire que la crise est plus grande que Dieu ou que Dieu est plus grand que la crise. » En fait, en réalité, si on arrive à ça, notre choix, il se limite là. Au 17e siècle, oui, j'ai trouvé ce personnage-là. John Donne, un poète et pasteur au 17e siècle, était un homme qui connaissait bien les crises. Au cours de son pastorat de la plus grande église de Londres, il y a eu 3 vagues de peste bubonique qui ont balayé la ville. Imaginez-vous. Et la dernière de ces vagues-là, à elle seule, a tué 40 000 personnes. Wow! Monsieur Donne lui-même est tombé malade à travers cette expérience-là. Il est arrivé à une conclusion que la vie impliquera toujours des circonstances qui incitent à la peur. Toujours. Que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés financières, la pauvreté, le rejet, la solitude, l'échec. Peu importe. il y aura toujours dans la vie des circonstances qui nous incitent à succomber à la peur. La réalité, c'est que dans un monde comme ça, M. Don s'est rendu compte qu'il avait un choix clair, c'est-à-dire craindre Dieu ou craindre tout le reste. Est-ce que j'ai plus confiance à Dieu ou je fais confiance à la crise? J'ai confiance en mes moyens. Et lui a réalisé que de faire confiance à Dieu était ce qui avait le plus de sens. Et si vous prenez le temps d'aller écouter cette série-là que je vous ai mentionnée tantôt, le mal, la souffrance et Dieu, vous allez en arriver à quelque chose de bien particulier. Que tout ça a beaucoup plus de sens qu'on le pense et que Dieu est beaucoup plus proche de nous qu'on le pense. Dieu est encore plus proche de nous que nous-mêmes on pense qu'il l'est. Et quand on vit ces moments de difficulté, ces moments de crise, on a l'impression qu'il prend distance. Okay. Je pense que c'est John Maxwell qui disait « Vous vous sentez loin de Dieu, devinez qu'il s'est éloigné. » En réalité, c'est pas Dieu qui s'éloigne de nous. C'est souvent nous qui s'éloignons de Dieu. Que ce soit par notre crainte, notre peur, qui nous envahit. Et je veux dire que, pensez-y un instant, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Comme Josaphat l'a appris, Dieu peut vaincre n'importe quel ennemi. Même si ça semble impossible, toutes les hits qui ont passé, les Ammonites, Moabites, Maonites, toute cette gang-là, ils pouvaient les nommer, et que Dieu a dit à Josaphat, « Laisse-moi agir, mets-moi en premier, fais-moi confiance. » Dieu a dit, « Cherchez-moi en premier, priez-moi, invoquez-moi de tout votre cœur, et vous verrez si je ne guérirai pas votre pays. » Souvent, c'est que ce qu'on veut, c'est mettre nos efforts, nos ressources en premier, avant de mettre notre confiance en Dieu. En fait, la crise n'est pas un problème au point où ce que Dieu ne peut plus intervenir. Parce que Dieu peut toujours subvenir à nos besoins. Toujours. La Bible nous dit que Dieu pourvoit nos besoins en fonction de sa richesse et sa gloire. Et que même la mort n'est plus une menace pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. C'est juste qu'on perd de vue ça quand Dieu dit « Arrêtez. Arrêtez. » Aujourd'hui, je vais vous mettre au défi d'examiner votre propre vie avec la situation qu'on vit en ce moment. Demandez-vous, qu'est-ce que vous craignez le plus? Qu'est-ce que vous mettez en plus votre confiance dedans? La confiance en la puissance d'un Dieu qui vous aime ou le pouvoir d'une crise? Et ce matin, demandons-nous, suis-je en train de réagir aux épreuves qui sont inévitables de la vie en général ou de cette situation-là en fonction de mes sentiments de peur ou de ce que la Bible dit à propos de mon Dieu qui peut tout? Suis-je fidèle à ses promesses? Est-ce que je me dis, Seigneur, je vais mettre toi en premier? Ou si je patauge dans mes sentiments qui me submergent? Suis-je en train de répondre à la fidélité de Dieu en lui accordant ma confiance? Jésus a même cité le psaume 91 que je vous ai lu tantôt quand il fait référence à lui-même. Il va dire « Combien de fois j'ai eu envie de vous rassembler comme une poule rassemble ses petits, mais vous ne vouliez pas. » Jésus a dit ça parce que Dieu aspire à ce qu'on expérimente cet amour-là, sa présence, son réconfort, sa sécurité. Cette paix-là qui dépasse toute intelligence. Il veut être notre refuge et notre force. Il veut qu'on expérimente la paix et sa présence. Mais la réalité, c'est qu'il nous imposera jamais ça. C'est notre décision et c'est votre décision. C'est vous qui prenez cette décision-là de faire confiance ou pas. Il ne vous le réimposera pas. Maintenant, c'est vous qui prenez cette décision-là. C'est aussi vous qui prenez la décision de succomber aussi à la peur et de la laisser dominer. Et je vous mets au défi, c'est pas juste la Bible qui le mentionne. Mais tout thérapeute, tout psychologue, tout vous dira, il faut pas succomber à la peur. Parce qu'en fait, c'est là que le problème débute, parce que la panique embarque. La Bible le mentionnait déjà depuis longtemps. C'est juste qu'on trouve que la Bible, c'est un peu vieux jeu. Sauf que c'est le manuel original. Tout le reste, on l'a copié dessus. C'est à nous de faire cette décision-là de placer notre confiance en Dieu.
Merci d'avoir pris le temps de télécharger ce message. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site Internet au www.eglisem.com, www.eglisem.com. Que Dieu vous guide et vous bénisse. Bonne semaine.